Poésie présente Ouragan de Daniel Steele, lu par Fabienne Loriot. À Toto, pour ton courage, pour toutes les épreuves que tu as traversées, pour avoir survécu à ce que d'autres ne peuvent qu'imaginer, puissent les mauvais souvenirs s'estomper et le bonheur éternel te trouver, avec tout mon amour. Et à tous mes enfants chéris, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Vanessa, Max et Zara. Merci infiniment d'être vous, à jamais dans mon cœur. Maman, Daniel Steele. Le chagrin a sa récompense. Il ne nous laisse jamais au point où il nous a trouvés. Mary Baker Eddy. Chapitre 1. Songeuse, Hélène Wharton étudiait les vêtements soigneusement disposés sur son lit en prévision de son voyage à New York. Organisée, méticuleuse et toujours impeccable, la jeune femme ne laissait jamais rien au hasard. En matière d'affaires comme de menus, de garde-robe ou d'agenda social, elle était précise dans tout ce qu'elle entreprenait. Cela lui garantissait une existence lisse, rangée, prévisible, laissant peu de place aux mauvaises surprises. Tous les ans, en septembre, elle rendait visite à sa mère. Les billets étaient réservés depuis juin. Elle organisait également avec cette même rigueur un voyage au printemps et un en automne pour Thanksgiving un an sur deux. Cette fois-ci, cependant, une raison tout autre que la tradition motivait son périple. À Londres, Hélène dirigeait une société de décoration d'intérieur très réputée qui comptait des clients dans les plus grandes villes d'Europe. Avec l'aide de ses trois assistantes et d'une color designer, elle composait des univers uniques, mettant en scène les plus beaux tissus et le mobilier le plus recherché, afin de s'adapter au mode de vie et aux besoins de chacun. Le tout, dans des palettes de couleurs originales et novatrices. Ses services coûtaient une fortune, mais elle assumait. Pourquoi s'en serait-elle privée? Après tout, avec sa réputation, ses grands prix de décoration et les couvertures des magazines qui lui étaient consacrés, elle le méritait amplement. Ses chantiers étaient toujours terminés en temps et en heure, une qualité rare dans son milieu, qui l'avait aidé à bâtir une solide réputation de fiabilité et avait largement contribué à son succès fulgurant. À l'entendre, Hélène était tombée dans la marmite de la décoration intérieure dès sa plus tendre enfance. Sa mère était l'une des architectes les plus réputées de New York, diplômée de la prestigieuse université de Yale. Elle avait commencé sa carrière auprès de E.M. Pei avant d'ouvrir sa propre agence et de dessiner les demeures des clients les plus exigeants des États-Unis. À 38 ans, Hélène passait encore beaucoup de temps avec sa mère. Elle disait lui devoir tout ce qu'elle savait en matière d'architecture d'intérieur. À ses côtés, elle continuait d'en apprendre davantage chaque jour et à l'occasion, elle s'envoyait des clients comme pour cette villa à Palm Springs sur laquelle sa mère travaillait actuellement. Hélène avait redécoré le yacht du propriétaire l'an passé. Les deux femmes étaient très différentes, mais elles faisaient preuve d'un immense respect l'une envers l'autre et adoraient travailler ensemble. Hélène admirait le style très ouvert de sa mère et ses lignes épurées. Décorer une maison dessinée par elle était un vrai plaisir, et elle lui demandait souvent conseil. Ensemble, elles avaient résolu plus d'un casse-tête architectural. À 71 ans, Grace Madison était toujours pleine d'idées révolutionnaires et géniales. Elle disait que la bonne réponse était souvent la plus simple. Elle n'aimait pas les choses compliquées ni les pièces encombrées, et c'est pourquoi elle dessinait des maisons astucieuses et pratiques, une vision que partageait sa fille. Hélène essayait toujours d'envisager les problèmes potentiels et gérait sa société avec rigueur. Grace était plus spontanée, plus ouverte aux idées nouvelles, au point d'en devenir un peu excentrique parfois, un trait de caractère qui la rendait profondément attachante. Femme talentueuse et forte, elle avait survécu à un cancer du sein 10 ans plus tôt. Même pendant sa chimio, elle avait insisté pour continuer à travailler. Depuis, elle avait vaincu la maladie et n'avait jamais manqué un seul jour de travail. Pourtant, Hélène se faisait constamment du souci pour elle. Sa mère ne faisait pas son âge, mais en dépit de son apparence juvénile et de son énergie inépuisable, les années défilaient. Le seul regret des deux femmes était de ne pas vivre dans le même pays. Hélène s'était installée à Londres près de 11 ans auparavant, quand elle avait épousé George Wharton, un avocat on ne peut plus british, qui avait fréquenté le très classique lycée Eton avant de poursuivre ses études à Oxford. Sa famille descendait de la même lignée que le philosophe du XVIIIe siècle, Edmund Burke, et s'enorgueillissait de ses racines prestigieuses entretenues avec force tradition. Hélène avait fait son possible pour s'intégrer à cette culture si éloignée de sa vision américaine des choses. Elle avait adopté le mode de vie de son mari, qu'elle respectait, même si les débuts de leur relation avaient été chaotiques. Depuis, elle organisait leur vie domestique exactement comme George l'entendait. Elle avait aimé apprendre à son contact les traditions anglaises et en avait d'ailleurs embrassé une grande partie. Mais la désinvolture new-yorkaise lui manquait parfois, ainsi que les habitudes de sa jeunesse. Elle était si amoureuse au moment de leur mariage qu'elle avait volontiers abandonné tout son univers pour George. Et au cours des 10 années suivantes, les goûts de son époux étaient tout naturellement devenus les siens. Les parents d'Hélène avaient divorcé alors qu'elle terminait ses études. La nouvelle avait d'autant plus été un choc pour elle qu'ils s'étaient toujours bien entendus. Pourtant, ils y pensaient depuis plusieurs années, loin de se détester, au contraire. Ils n'avaient tout simplement plus rien en commun. Leur couple s'était essoufflé. Après leur divorce, ni l'un ni l'autre ne s'étaient remariés et ils étaient restés proches, en bons termes, satisfaits de leur séparation. Puis, peu de temps après le mariage d'Hélène, son père était mort. Il avait 10 ans de plus que sa mère. Rétrospectivement, Hélène était heureuse qu'ils soient restés ensemble pendant son enfance. Et même après leur divorce, ils avaient bien fait les choses, n'avaient jamais dit du mal de l'autre. Tous deux avaient été très contents pour elle quand elle avait épousé George, même si sa mère le trouvait un peu trop rigide par certains aspects. Il était tellement anglais. Mais pour Hélène, cela faisait partie de son charme. D'une certaine manière, il lui rappelait son père, ex-banquier dans un fonds d'investissement à Wall Street. George était un homme calme, compétent et responsable. Des qualités qui faisaient de lui un très bon mari, à défaut de la faire rêver. Quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter. Cela rassurait Hélène. Elle voulait une vie rangée, sans surprise. L'unique déception dans leur mariage, la seule qu'Hélène n'avait pu ni anticiper ni contrôler, c'était le fait qu'ils n'avaient pas d'enfant. Malgré leurs efforts considérables, leur tentative d'avoir un bébé demeurait infructueuse. George s'était montré incroyablement coopératif, se soumettant à tous les tests possibles pour déterminer l'origine du problème. Rapidement, ils avaient découvert que cela ne venait pas de lui. Hélène aussi avait passé une série d'examens et avait tenté la fécondation in vitro 10 fois en 4 ans, sans résultat. Ils avaient vu 4 spécialistes différents, supposément meilleurs à chaque fois. Hélène était tombée enceinte 6 fois, et avait fait autant de fausses couches malgré toutes ses précautions. D'après le dernier spécialiste consulté, ses ovules avaient vieilli prématurément. Hélène avait voulu un enfant à 34 ans. Avant cela, elle avait été trop occupée à développer sa société et pensait qu'ils avaient tout le temps devant eux. Manifestement, elle s'était trompée. George ne voulait pas adopter. Il se montrait inflexible sur le sujet. Hélène, elle, ne souhaitait pas avoir recours à un don d'ovules. Et tous deux aimaient encore moins l'idée de la GPA puisqu'ils n'auraient aucun contrôle sur le mode de vie de la mère porteuse. C'était leur bébé, ou pas de bébé du tout. Et la deuxième éventualité se faisait chaque mois de plus en plus probable. Pourtant, Hélène ne se voyait pas vieillir sans enfant. Elle n'abandonnait donc pas. Entre chaque tentative de FIV et les injections d'hormones que George devait lui faire, elle avait établi un emploi du temps très strict de « tentative naturelle », ce qui les contraignait à interrompre leurs activités toutes affaires cessantes dès que l'appareil d'Hélène lui signalait qu'elle ovulait. Elle était tombée enceinte plusieurs fois ainsi, mais avait perdu le bébé tout aussi rapidement qu'avec les FIV. Ces derniers mois, il faisait une pause. La situation était devenue trop stressante et virait à l'obsession. Les multiples tentatives infructueuses avaient peu à peu tué la passion dans leur couple. Malgré tout, Hélène restait persuadée que leurs efforts finiraient par payer.